Versé se précipita dans l'appartement. Son regard alla de l'un à l'autre, et voyant notre étonnement, il comprit qu'il nous devait des excuses pour son entrée sans cérémonie. « Je suis désolé, monsieur Holmes, » s'écria-t-il. « Il faut pas m'en vouloir, je suis à moitié fou, monsieur Holmes. Je suis le malheureux Hector MacFarlane. » Il prononça ces mots, comme si son nom seul devait nous expliquer le but de sa visite. Mais je vis bien à la figure de mon compagnon qu'il ne comprenait pas plus que moi. « Prenez donc une cigarette, monsieur MacFarlane, » dit-il en lui offrant son étui. « Je suis persuadé qu'avec les symptômes que vous présentez, mon ami le docteur Watson vous prescrirait un sédatif. Il fait si chaud depuis quelques jours. Maintenant, si vous vous sentez un peu remis, je serai très heureux de vous voir prendre ce fauteuil et de vous entendre raconter avec le plus grand calme qui vous êtes et ce comme si j'étais censé le connaître. Mais je vous assure qu'à part certains détails évidents qui permettent d'affirmer que vous êtes célibataire, franc-maçon et asthmatique, je ne connais rien de vous. » Familier comme j'étais avec les méthodes de mon ami, il ne m'était pas difficile de suivre ses déductions et d'observer le désordre des vêtements du jeune homme, sa serviette bourrée de papier timbré, les breloques de sa chaîne de montre et sa respiration haletante. Notre client nous contempla cependant avec surprise.
« Oui, je suis bien tout cela, et de plus l'homme de Londres le plus malheureux en ce moment. Pour l'amour de Dieu, monsieur Holmes, ne m'abandonnez pas. Si l'on vient m'arrêter avant que j'aie terminé mon histoire, faites-moi donner le temps de vous faire connaître toute la vérité. J'irai heureux en prison, si je sais que vous vous occupez de moi. »«
Vous arrêtez ?» dit Holmes. « C'est réellement très, très intéressant. Et sous quelle prévention vous arrêterait-on ?»«
Sous prévention de l'assassinat de... « Monsieur Jonas Holdrake de Lower Norwood. »
La figure expressive de mon ami laissa percer une sympathie qui n'était pas, je le crois bien, exempte de quelque satisfaction.
« Vraiment ?» dit-il. « Je disais précisément ce matin à mon ami le docteur Watson que les affaires sensationnelles devenaient de plus en plus rares dans les journaux. »
Notre visiteur allongea une main tremblante et ramassa le Daily Telegraph qui était posé sur les genoux de Holmes.
« Si vous l'avez lu, monsieur, vous aurez vu au premier coup d'œil le motif de ma visite de ce matin. Il me semble que mon nom et mon malheur sont sur les lèvres de tous. »
Il retourna le journal et présenta la page du milieu.
« Voici, dit-il, avec votre permission, je vais vous le lire. Écoutez, monsieur Holmes, voici l'en-tête. Le mystère de Lower Norwood, la disparition d'un entrepreneur bien connu, soupçon d'assassinat et d'incendie, la piste de l'assassin. » C'est cette piste que l'on suit déjà, monsieur Holmes, et je sais qu'infailliblement elle conduit vers moi. On me suit depuis la gare de London Bridge, et je suis sûr qu'on n'attend qu'un mandat pour m'arrêter. Cela va briser le cœur de ma pauvre mère, ah oui, oui, cela va lui briser le cœur. »
Il joignit les mains dans une attitude de supplication, tout en se balançant sur sa chaise. Je regardais avec le plus vif intérêt cet homme sous le coup d'une accusation capitale. Il était blond, d'une beauté fade, avec des yeux bleus effarés, la face rasée, la bouche faible et timide. Il pouvait avoir 27 ans. Sa tenue et son maintien étaient ceux d'un homme bien élevé. De la poche de son pardessus d'été sortait une liasse de papiers d'affaires qui dénotait sa profession.
« Il nous faut d'abord utiliser le temps que nous avons de libre, » dit Holmes. « Watson, « ayez donc la bonté de prendre ce journal et de lire l'article en question. »
Sous l'entête en gros caractères que notre client venait d'indiquer, je lus la narration suivante. « À la fin de la nuit dernière, ou vers l'aube, un fait s'est produit à Lower Norwood qui permet de croire à un crime très grave. Monsieur Jonas Holdacre était une des personnalités les plus connues de ce faubourg où il avait établi depuis de longues années ses bureaux d'entrepreneurs de construction. Célibataire, âgé de 52 ans, il habitait Dibdin House, du côté de Sydenham, sur la route du même nom. Il passait pour avoir des habitudes fort excentriques et être même fermé dans sa manière de vivre. Depuis quelques années, il s'était pour ainsi dire retiré des affaires où il avait, dit-on, amassé une grosse fortune. Une petite cour contenant des bois de construction se trouve derrière la maison. La nuit dernière, vers minuit, on s'aperçut qu'un tas de ces bois était en feu. Les pompiers ne tardèrent pas à arriver sur les lieux, mais le bois très sec brûlait avec furie. L'incendie ne put être arrêté et bientôt tout le tas fut